Bonjour à tous.
Bonjour.
Je m'appelle Richard Ulrich Conrad. Je suis venu avec ma femme Chelsea et nos enfants. Donc, on est bien américains. On habite à Aix-en-Provence depuis 3 ans. J'ai fait des études de théologie à la faculté Jean Carin, qui est là-bas, et on est membre de l'Église évangélique libre à Aix-en-Provence. Donc, j'y prêche assez souvent. C'est à travers, vous avez fait appel à Fred Bonin, si on avait des prédicateurs, et c'est ainsi que je suis ici, pour apporter ce message de Dieu. On va prier. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons en ta présence, pour te rendre un culte, pour nous émerveiller de toi. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la lumière qui est dans ta parole, qui est témoin de la vraie lumière, c'est-à-dire Jésus, que nous témoignons à sa gloire dans ce livre. Nous te demandons les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, pour percevoir la gloire de Jésus.
Amen.
Dans le texte de la prédication d'aujourd'hui. Parce que nous savons que c'est à travers la contemplation de la gloire de Jésus que s'effectue notre transformation pour être de plus en plus comme ton fils. Au nom de ce Jésus. Amen.
Amen.
On a demandé une fois à l'athée célèbre Bertrand Russell ce qu'il dirait si, contrairement à son attente, il se trouvait après sa mort en face de Dieu. Et ce qu'il a dit, sans trop d'hésitation, c'était « not enough evidence ». Pas assez de preuves. Il n'y a pas assez de preuves pour que je croie en Dieu. Tu ne m'as pas montré. Et si je n'ai pas cru, bon, c'est ta faute, Dieu. Parce que tu n'as pas rendu clair que tu existais. C'était son propos. Bon, bien sûr, hein, je crois qu'il avait une autre vie quand le moment est venu. Mais ce n'est pas simplement un phénomène qui existe depuis peut-être l'époque des Lumières, ce genre de scepticisme qui dit qu'il n'y a pas assez de preuves. Ça existe depuis le début. Et Jésus a rencontré le même genre de scepticisme dans son ministère. Et nous allons lire un texte aujourd'hui qui donne sa compréhension de cette incrédulité. Qu'est-ce qui explique que les gens ne croient pas? Est-ce que c'est vrai que Dieu n'a pas donné suffisamment de preuves? Ou qu'est-ce qui explique autrement que les gens ne croient pas? Donc le texte c'est en Luc 11, à partir du verset 33, le parabole de la lampe et de l'œil. Mais pour bien le comprendre, il faut donner un peu de contexte, bien sûr. C'est chapitre 11, à partir du verset 33. Chapitre 11, verset 33. Je ne sais pas si vous parlez anglais. En fait, le contexte pour comprendre ce dont parle Jésus, ça commence à partir du verset 14. À partir de verset 14, Jésus chasse un démon dans un homme muet. Donc on avait un homme muet qui était possédé par un démon. Jésus chasse le démon et l'homme parle. Et tout le monde est étonné. Mais puis dans les versets 15 et 16, Luc nous raconte deux réponses négatives. Premièrement, en verset 15, les gens disent « Bon, c'est par Beelzeboul que ça c'est démon. C'est-à-dire pas le diable. » Jésus peut chasser les démons parce qu'il est lui-même possédé par le diable. C'est le diable qui travaille à travers lui. Donc les miracles de Jésus ne sont pas des signes de Dieu. C'est la puissance du diable. Et puis en verset 16, Luc nous dit, « D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. » Et ça, c'est moins ouvert dans son hostilité. On peut imaginer que ces gens, ils ont un esprit ouvert. Bon, on est prêt à croire en Jésus si seulement il peut nous montrer un signe clair pour que nous croyions. Mais Luc dit bien, c'était pour le mettre à l'épreuve. C'est pas vraiment honnête. C'est pas parce qu'il y a un esprit ouvert, mais c'est un défi. Et c'est qu'on parle pour faire des gens qui demandent un signe, c'est pas les gens qui sont prêts à regarder Jésus pour voir qui il est. Mais en fait, ils ont une idée préétablie du Messie doit faire ceci et cela. Et donc, on demande à Jésus de faire ceci et cela, et s'il ne fait pas, on n'est pas à notre standard, on ne l'accepte pas. Et du coup, bien sûr, on lit les textes, on dit, mais il vient de chasser un démon. C'est pas un signe, ça? C'est un signe, mais maintenant, on a besoin d'un signe. Et bien sûr, si on a un signe, on va demander un autre signe. Parce que ce n'est pas une question honnête. Ce n'est pas un désir honnête de voir vraiment si Jésus est le Messie, mais c'est une excuse. Et donc, à partir du verset 17, Jésus répond à ces deux réponses. Premièrement, à l'idée que Jésus chasse les démons par la puissance du diable. Et Jésus dit, ce que vous dites, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique que Satan chasse ses propres soldats. Comme ça, on a une armée où les soldats de l'armée combattent les uns contre les autres. Et une armée comme ça, c'est une catastrophe sur terre. Et c'est pas ça, le royaume de Satan. C'est bien organisé. Ils se combattent pas entre eux. Et puis, ils se tournent vers ceux qui ont demandé un signe. Verset 29. Et Jésus dit, cette génération est une génération mauvaise, méchante. Elle réclame un signe miraculeux, il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Donc il y a une reproche. C'est une génération mauvaise qui demande un signe. Et puis il fait deux comparaisons défavorables. Premièrement, entre ces gens ici en Galilée et les Ninivites qui se sont repentis, qui se sont convertis à la prêche de Jonas. Alors que Jésus est plus grand que Jonas, et les Galiléens ne se sont pas convertis. Et puis, il y a la reine de Midi, qui est venue de vraiment loin pour écouter la sagesse de Salomon. Alors qu'ici, on a Jésus qui est plus grand et plus sage que Salomon, et il a aussi cette sagesse, mais les gens ne l'écoutent pas. Ils ne croient pas en lui. Et donc, il y aura cette condamnation des Ninivites et de la reine de Midi, parce qu'ils se sont repentis et ils sont venus écouter Jonas et Salomon, qui étaient moins grands que Jésus. Alors que Jésus, il est en Galilée, en son propre pays, et les gens ne croient pas. Et c'est ainsi qu'on arrive à notre texte pour aujourd'hui, verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché ou sous un seau, mais on la met sur son support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps aussi est dans les ténèbres. Veille donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre. Si donc ton corps tout entier est éclairé, sans aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lueur. Effectivement, la raison originelle pour laquelle j'ai préparé cette prédication, c'est parce que je faisais des études à Jean Calvin, j'ai eu le cours de prédication, premier cours de prédication, et Jean-Philippe Brun nous a assigné les textes. Donc, il m'a donné ce texte, Luc 11, 33 à 36. J'ai lu, j'ai dit, aïe aïe aïe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Comment vous prêchez? Mais, heureusement, j'ai étudié et j'ai vraiment hâte maintenant de partager avec vous ce que j'ai appris. Et je propose d'exposer le texte en trois grands mouvements, trois parties, trois idées. Et le premier, c'est que la lumière est entrée dans le monde. Et la lumière, c'est qui? Bon, on est à l'église, si je pose une question, 90% du poids, ça va être Jésus. Jésus la réponse, hein. Qui est la lumière? Bon, c'est bien Jésus qui a dit en Jean 8, « Je suis la lumière du monde. Ou bien on peut lire Ésaïe chapitre 9, où on parle de l'avènement du Messie, et on dit le peuple de Galilée, qui marchait dans les ténèbres, ont vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière brillait. Et plus tard, en Ésaïe, le chapitre 49, Dieu dit à son serviteur, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc, Jésus est la lumière. Et comme toute personne de bon sens n'allume pas une lampe pour la mettre derrière la canapée ou sous une table, Dieu, en allumant une lampe et en l'envoyant dans le monde, il ne l'a pas fait en secret, mais publiquement. Et la parole s'est faite humble, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, en 14. Et donc Jésus, lumière du monde, il n'était pas caché quelque part en confiant sa sagesse à un petit groupe, mais il a prêché publiquement, ouvertement, dans les synagogues, dans les champs, là où les gens n'étaient pas à écouter, Jésus prêchait. Le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Du coup, ces miracles étaient publics. Et partout où on trouvait les gens, bon, c'est souvent les gens qui couraient vers lui. Et là, ils l'ont trouvé, là, il les a guéris, il a chassé les démons. Et dans le contexte de notre passage, il venait juste de guérir cet homme devant tout le monde. Donc Jésus n'était pas une espèce de gourou gnostique et conférant une connaissance secrète à son petit groupe. Mais la gloire de Jésus a été manifestée ouvertement. Et bien sûr, ce ministère public était une bénédiction de la part de Dieu. Le Fils de Dieu aurait pu rester au ciel. Il n'avait pas d'obligation de venir nu. Il n'était pas contraint de le faire. Il aurait pu rester au ciel, attendre que nous le trouvions. Ça aurait été une longue attente. Mais Jésus est venu vers nous et c'est une grâce. C'est une faveur imméritée. Un Dieu qui se révèle, qui se communique, qui nous parle, c'est un privilège. C'est un privilège de recevoir la révélation de Dieu et c'est un privilège que ne reçoit pas tout le monde. Le psalmiste, psaume 147, dit « Qui révèle sa parole à Jacob, ses prescriptions et ses jugements à Israël, il n'a pas agi de cette manière pour toutes les nations et elles ne connaissent pas ses jugements. Lui est l'Éternel. » Nous avons tendance à considérer comme acquis la parole de Dieu, le fait que je possède plusieurs Bibles en plusieurs langues, plusieurs traductions, et je peux lire quand je veux sur mon portable, et je prends comme acquis. Mais c'est une grâce, c'est une bénédiction. Vous savez qu'il y a des centaines de langues où la Bible n'a pas été traduite, pas un mot. Des gens qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu dans leur propre langue. Donc nous avons été bénis richement. Et le fait que ce ministère a été public, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse pour les Galiléens. Ça, c'est le point principal ici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Ce verset me bouleverse. Chaque fois, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et donc, la deuxième partie, le deuxième mouvement, les gens qui ont vu Jésus, qui brillait publiquement, pourquoi n'ont-ils pas vu la lumière? Pourquoi n'ont-ils pas vu la gloire de Jésus pour croire en lui? Bon, Jésus dit que l'œil est la lampe du corps. Ce qui veut dire que la lumière de la loi doit passer par l'œil pour éclairer le corps. Donc pour le reste du corps, c'est l'œil qui est la source de lumière. C'est l'œil qui est la lampe, effectivement. Alors le corps dépend de l'œil pour être éclairé. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, la lumière passe. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. Veille donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Et c'est ça l'explication de Jésus de ce rejet chez son propre peuple. Pourquoi les gens le traitent de diable, pourquoi les gens demandent sans cesse des signes, c'est parce qu'ils ont des yeux en mauvais état. Ce n'est pas un manquement de sa part. Ce n'est pas comme si Jésus n'était pas assez clair, assez glorieux. Jésus a manifesté ouvertement la gloire de Dieu, mais ils n'ont pas vu parce qu'ils sont aveugles. Dès que je dis aveugle, il faut préciser. Parce qu'on va penser que ce sont aveugles, ce n'est pas de leur faute. Normalement, si quelqu'un est aveugle et il ne voit pas, ce n'est pas de sa faute, il est aveugle, quoi. Si quelqu'un n'entend pas parce qu'il est sourd, bon, il est sourd, ce n'est pas sa faute. Mais ici, c'est un aveuglement qui est volontaire. Ce n'est pas un aveuglement qui ôte la responsabilité, c'est l'aveuglement des gens qui ne veulent pas voir. Des gens qui font ça. Ils cherchent toutes les excuses pour ne pas croire en Jésus. Ils ferment les yeux contre la lumière. Et c'est la corruption de la nature humaine qui est commune à nous tous, qui pousse les gens à ne pas voir. Et ce n'est pas simplement à l'époque de Jésus, ce n'est pas simplement ces Galiléens dont on parle. C'est la lumière de Jésus brille toujours dans ce monde et nous avons donc toutes les excuses pour ne pas le voir. Et ça, alors, ceux qui n'ont aucune appréciation pour Jésus, qui disent qu'il était un mauvais homme ou qu'il n'a pas existé, il y en a certains. Mais on a plus la tendance d'être condescendant. Nous sommes contents de lui accorder la place de prophète de l'islam, de bon enseignant, d'homme de Dieu. Il était un bon enseignant. Oui, j'ai dit ça. Jésus était génial, il est parmi les grands hommes de l'histoire. Je l'aime bien. Mais enfin, le constat, c'est un rejet total. Si on n'accepte pas Jésus comme fils de Dieu, pleinement Dieu, celui en qui on place toute sa confiance, c'est un rejet. Si le roi est venu et on lui accorde la place de maire, c'est un rejet de sa royauté. Ou bien, nous assumons une fausse humilité et nous prétendons qu'on ne peut pas savoir. Alors que la lumière brille dans nos ténèbres, nous disons, qui sait, c'est pas clair. Comme si Jésus n'a pas suffisamment manifesté sa gloire en tout ce qu'il a dit, en tout ce qu'il a fait. Comme si le fait que le Fils de Dieu est venu être homme parmi nous, et pas seulement pour être homme, pour être serviteur, mais pour mourir à la croix, pour nos péchés, pour le ressusciter le troisième jour. Si ça, c'est pas assez de preuves, assez de gloire, je sais pas. Et ça peut être frustrant pour nous qui croyons. Parce qu'on voit que les mensonges et les erreurs circulent librement, alors qu'on peine vraiment à faire passer le message de l'Évangile. Il y a beaucoup qui sont trompés tout le temps. Et vous pouvez imaginer la scène si les disciples revenaient le lendemain, ils entendaient ces gens parler. Ah ouais, Jésus, pas si grand que ça. On lui a demandé un signe et il ne pouvait pas le faire. C'est sûr qu'ils ont dit ça. Jésus savait qu'ils allaient dire ça, mais il ne s'inquiétait pas. Il ne faut pas que nous nous inquiétions non plus. Donc, qui est aveugle? Qui, ces Galiléens, ils représentent qui? Qui sont ces méchants qui ont corrompu leurs yeux pour ne pas voir la croix de Christ? C'est moi. C'est vous. C'est toute personne descendue d'Adam et d'Ève. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, nous dit Paul, Romains 3. Alors, c'est nous qui sommes confrontés par ce problème. Nous avons la lumière, mais nous ne pouvons pas la voir et nous n'en bénéficions pas. Est-ce qu'il y a une solution? Et ça, c'est le troisième mouvement de ce passage. Parce que Jésus a parlé de la possibilité d'avoir un œil en bon état. Jésus a dit, si dans ton corps tout entier est éclairé, sans aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lueur. Alors, question aux gens, comment avoir un œil en bon état? Et ce n'est pas vraiment le sujet de Jésus ici dans ce passage, il ne répond pas à cette question. Donc, je me suis référé à Paul en 2 Corinthiens qui utilise une analogie tout à fait la même, qui parle de la lumière, qui parle des yeux qui sont aveuglés et parle de l'action de Dieu pour résoudre ce problème. Donc, c'est en 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3, où il dit: si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui sont en train de périr. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde, le diable, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Alors, Dieu qui a percé les ténèbres originelles de l'univers avec la lumière, que la lumière soit, Genèse 1, ce Dieu peut percer aussi les ténèbres dans mon cœur. Nous sommes aveugles par nature, mais Jésus guérit les aveugles. Bonne nouvelle. Alors, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui doit intervenir, Dieu qui doit agir, et c'est la grâce. Dieu donne également la lumière et les yeux pour que nous soyons éclairés par cette lumière. Que faire alors? Bon, si je n'ai pas encore reçu ce don, si je n'ai pas expérimenté cet éclaircissement où j'ai trouvé que la gloire de Jésus est mon trésor le plus grand, où c'est la joie de mon cœur, il faut demander à Dieu d'ouvrir mes yeux. Rien n'est plus important. Il faut continuer à regarder à Jésus pour que Dieu ouvre les yeux et pour que je voie. Et si je l'ai déjà reçu, si je comprends ce dont parle Paul, ce dont parle Jésus, qu'il est la lumière et j'aime cette lumière, il ne faut jamais oublier d'être reconnaissant pour ce privilège d'avoir un œil en bon état et un cœur éclairé. Et aussi, même si je vois, il faut admettre que je ne vois pas encore parfaitement. Alors que Jésus a parlé d'un corps tout entier éclairé, sans aucune partie dans les ténèbres, pour moi-même, je ne suis pas arrivé à ce stade-là. Donc, quelles sont les choses qui m'empêchent de voir pleinement la lumière? Quand je marche avec Jésus, je le suis, mais je ne suis pas encore arrivé à ce stade d'être tout à fait éclairé. Pour plusieurs possibilités. Peut-être c'est parce que je suis fasciné par les bibelots de ce monde. Je suis distrait de la lumière de Jésus par les autres choses qui brillent elles aussi. Sommes-nous aveuglés à la gloire de Christ par notre poursuite des choses du monde? Ou peut-être nous ne voyons pas sa gloire parce que nous cherchons notre propre gloire. Jésus dit: comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ou troisièmement, peut-être il y a un péché particulier. J'étouffe le Saint-Esprit plutôt de me repentir. Je m'éloigne de Dieu par honte, comme Adam et Ève dans le jardin. Mais je ne peux pas voir la gloire de Jésus si je suis en train de fuir. J'ai besoin de revenir dans la lumière, de confesser mon péché et de l'abandonner. Et vous avez bien entendu, toutes ces questions pratiques de santé, de marcher avec Dieu, de notre progrès dans la foi, c'est bien une question de l'œil. Les ténèbres dans le corps sont un symptôme d'un œil qui n'est pas tout à fait limpide. Nous remarquons nos problèmes de conduite, nos manques de progrès dans la foi, et nous imaginons que nous progresserons dans la sanctification par l'effort de faire mieux. Certains ont vécu l'expérience qui peut être décevante. Je ne dis pas que la discipline fait partie de la vie chrétienne, mais le but ultime, c'est d'arriver au stade de ne plus vouloir pécher. C'est ça l'état glorieux qui nous attend. Et la transformation s'effectue en voyant la gloire de Jésus qui disperse les ténèbres en nous. Paul dit 2 Corinthiens 3, 18: nous tous qui, sans voir sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. c'est la contemplation de la gloire de Christ qui est le moteur de la vie chrétienne, qui nous transforme, qui nous fait avancer toujours plus près de lui. Plus nous regardons Christ, plus nous voyons sa gloire, plus nous le désirons, et moins le péché a une attraction pour nous. Parce que ce qu'offre le péché n'est plus ce que nous voulons. Alors, ce texte, c'est tout d'abord un reproche à l'incrédulité humaine. Dieu nous a donné la lumière. Et si les gens n'ont pas vu, c'est leur propre faute. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu assez de preuves. Bertrand Russell n'avait pas raison. L'incrédulité ne s'explique pas par un manque de preuves, mais par la corruption de l'œil. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu ne nous a pas laissés dans cet aveuglement et dans nos ténèbres que nous avons choisi, mais il nous a envoyé Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, qui nous éclaire, qui a payé la dette de nos péchés, et le Saint-Esprit qui nous convainc de la vérité de cet Évangile. Donc, nous n'avons aucune raison de nous glorifier, mais nous glorifions tous Dieu seul. Nous lui donnons la reconnaissance parce qu'il nous a donné et la lumière et la grâce par laquelle nous voyons cette lumière, ce qui est notre choix. Prions. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce que tu ne nous as pas traités selon ce que nous méritons. Mais tu es toujours bon, miséricordieux et patient envers nous. Même après les avoir été éclairés, nous continuons à pécher. Mais tu travailles toujours en nous. Donne-nous encore aujourd'hui plus de grâce pour voir la gloire de Jésus, pour désirer voir cette gloire. Et transforme-nous à l'image de ton Fils. Au nom de Jésus.